pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wild.
Ou de Wild.
Ou de Wild.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Caribbean Stories, c'est le nom du dernier album, du nouvel album de Samy Thiébaud. Il est sorti le 21 septembre. Samy Thiébaud l'a présenté au Festival Jazz sur son 31 la semaine dernière. Et aujourd'hui, eh bien, il est avec nous en studio. Bonjour Samy Thiébaud.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, ravi de vous accueillir ici. C'est la première fois que vous venez nous voir. Donc, nous, on est super contents. Avec moi, dans cette émission, pour la deuxième fois, Fred Blanc, puisque Fred est maintenant co-animateur de cette émission avec moi. Salut Fred, comment tu vas aujourd'hui?
Ah ben moi, très bien, très bien. En plus, je suis content de recroiser Samy. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu.
Parce qu'on se connaît par des réseaux parallèles mystérieux.
Et oui, mystérieux.
Que les auditeurs découvriront peut-être.
On ne va pas vous parler de tout. Mais...
Le petit monde du jazz.
On lâchera peut-être des infos.
Peut-être, éventuellement.
Le petit monde du jazz. Effectivement, il faut quand même rappeler, Fred, que tu es le fondateur de ces Sunday Jazz Loft, qui sont des après-midi en appartement, où on peut écouter du jazz, rencontrer des musiciens de jazz.
Ah, on s'est vu une fois, t'es venu là-bas.
Oui, j'étais venu, mais les connexions avec Fred sont nombreuses, elles sont amicales et familiales aussi.
Oui, dans tous les sens.
Même familiales.
Oui.
Alors on va en savoir un peu plus peut-être au cours de l'émission, mais si j'arrive à vous faire parler.
C'est dans le dernier closer de cette semaine, c'est écrit la relation cachée de Fred et Samy.
Alors Samy Thiébaud, ce festival jazz sur son 31 à Toulouse, comment ça s'est passé?
Excellemment bien, d'autant plus que c'était la première date en live du groupe. C'est un nouveau groupe que j'ai monté il y a, allez, on va dire 2 ans maintenant, 1 an et demi. Et bon, on a énormément travaillé, on a fait du studio, on a fait des enregistrements live en concert filmé, mais c'était la première vraie rencontre avec le public. Et puis il y a une très belle salle de 500 personnes avec le groupe au complet. On est quand même assez nombreux, on est 6-7 sur scène.
Ouais.
Et c'était un moment magique, les gens... Donc c'était vraiment la lancée de la tournée, et le rapport avec le public, les gens, s'est passé exactement comme j'aurais voulu qu'il se passe, et donc ça présage de très beaux moments pour la suite.
Donc le public,
je suis très enthousiaste.
Le public toulousain,
accueillant, très,
chaleureux,
très au rendez-vous. Ouais.
C'était la première fois ou pas que tu étais sur ce festival?
Non, j'avais déjà joué à Jazz sur son il y a 3 ans avec mon projet sur les Doors, il y a 4 ans. Et donc du coup, c'était... Mais ils ont changé la salle, c'est un Magic Mirror qu'ils avaient maintenant, c'est une salle un petit peu plus grande, qui peut avoir plus de contenance, et vraiment, j'en attendais pas moins.
Alors, on va essayer de te connaître un peu plus dans cette émission, puisque c'est la première fois que tu viens nous voir. Fred, peut-être des questions sur est Samy Thiébaud.
Voilà, exactement, c'est un peu ça. C'est avant de connaître ou découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, même le découvrir complètement, moi je le connais un peu, ton dernier album, j'ai envie un peu de parler du personnage, parce que quelque part, tu es un peu un personnage énigmatique.
Ah bon?
C'est toujours souriant, chaleureux. Je sais pas, je trouve que dans le monde du jazz...
Musicien souriant.
Ah. Non, mais t'es toujours... On voit tes photos, elles sont élégantes, elles sont belles, tout est ciselé. Donc, et puis à côté de ça, j'ai l'impression que t'es aussi quelqu'un de la réflexion, parce que chaque fois que tu construis un petit peu un projet, c'est pas n'importe quoi.
Ah bah, je te prends comme un compliment. Peut-être pour rebondir d'abord sur cet élément de réflexion, je sais pas si... Je vois ce que tu veux dire, mais... cet élément réflexion, ça peut faire un peu peur, et à moi, et aux gens qui ont jamais écouté ma musique. En fait, je dirais que je suis plus... Mon objectif est plus de faire ressentir, mais que ce sentiment soit quelque chose de profond, que ce soit pas une sensation, on va dire, vaine et inutile, comme quand on a envie de manger un énorme hamburger plein de gras le soir à minuit, c'est une sensation. Mais par contre, quand...
Ah oui, ça t'arrive.
Ah oui, ça peut m'arriver, évidemment, comme tout le monde. Mais par contre, quand on est amoureux de quelqu'un, quand on touche quelqu'un qu'on aime, quand on mange quelque chose de très très bon, quand on ressent une musique qu'on aime, c'est pas la même sensation. C'est une sensation qui renvoie en soi, qui renvoie à l'autre. C'est plutôt ça que je cherche à faire. Et évidemment, alors c'est très ambitieux, parce qu'il y a quand même de grands maîtres derrière nous qui nous ont montré cette voie-là. Mais s'inscrire dans ce chemin-là, du coup, ça nécessite une forme d'exigence, effectivement, et de jamais sortir un album pour sortir un album, parce que des idées, on peut en avoir tous les jours, mais des idées qui s'inscrivent dans ce chemin, qui le creusent un petit peu plus, effectivement, il faut être patient, y passer beaucoup d'heures de travail. Je pense que je suis un passionné du travail, effectivement, j'aime bien le travail. J'aime
et puis
tu te mets
souvent en danger, parce que tu vas chercher des gens qui ne sont pas de ton domaine.
Alors, tout à fait,
ton domaine, quand tu vas...
Et de plus en plus, effectivement, c'est vrai que là, cette année, bon, là je suis là pour parler de Carrie Benz, qui est sorti le 21 septembre dernier, mais ça a été une année extrêmement dense, puisque dans le même mouvement, j'ai enregistré un disque avec un orchestre symphonique, donc j'ai écrit la musique, et avec mon autre quartet, dont tu connais l'un des membres.
C'est un jeu dans cette émission, il va falloir deviner.
C'est l'énigme.
Alors, on va dire contrebasse.
On va dire contrebasse, voilà.
Ouais, et non, SR, quand même. Pour SR. Pour ceux
non,
qui
non,
les
écoutent. Gens vont trouver. Comme c'est ouais. Bon,
justement, avec la contrebasse, moi, je me souviens avoir vu sur scène, et il y avait un comédien ce jour-là qui disait des textes, donc c'est, que
tout
je connaissais d'ailleurs aussi.
Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Qui avait joué avec mon fils au théâtre, ou au cinéma.
Ah oui
ouais.
Ah,
ouais.
C'est bien
non,
parce
théâtre,
que moi j'ai l'impression d'être complètement exclu de la conversation.
Mais pas du tout, pas du tout. Ah ben, nous on se rencontre aujourd'hui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et je me souviens que c'était intéressant parce que justement, tu avais créé une ambiance incroyable sur scène, il y avait je ne sais plus combien de musiciens différents.
Oui, j'avais invité plein d'amis, ouais.
Et il y avait comme ça une voix qui apparaissait du fin fond de nulle part avec des textes en anglais. En plus.
Oui, parce que c'était pour mon disque sur les Doors et donc les Doors c'est quand même la poésie de Jim Morrison et je ne pouvais pas faire. Réarranger cette musique-là sans passer par les poèmes de Jim. Et donc, du coup, j'avais contacté Nathan Wilcox, qui était venu déclarer déclamer les textes sur scène. Et donc, effectivement, pour ce projet Caribbean Stories, j'ai passé. C'est parti d'un énorme coup de foudre, d'une passion, de toute façon, je fais rien sans ça, et d'un amour pour les musiques de la Caraïbe. D'abord, j'ai commencé par le Venezuela, et après, ça a irradié tout autour. Et au fur et à mesure, ça fait 5 ans que ça m'obsède en fait, ces musiques, et 5 ans que j'ai pas osé m'en emparer, jusqu'à un moment où ça devenait inévitable et nécessaire pour moi, et ça a été une vraie cure de jouvence parce que j'ai vu à la fois le passé du jazz et certainement son futur.
Juste avant de rentrer justement dans l'album, j'aurais bien voulu savoir, parce que Samy Thibault, j'ai l'impression que c'est une entreprise à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a Gaïa Production, Gaïa Label, il y a des films, il y a une image, je pourrais presque dire une image de marque.
Bah, écoute,
un homme super beau sur des photos sublimes.
C'est vrai que c'est un peu le gentleman du jazz.
Ah bah écoute, bah je ne sais que de compliments.
Mais alors qu'est-ce que c'est
Oui, c'est pour que tu reviennes prochaine fois.
C'est déjà acquis ça.
Mais comment on fait tout ça?
Alors, on est insomniaque déjà, ça c'est une première...
Alors combien d'heures par nuit?
Je ne sais pas, 2, 3 heures, voire 4 maximum.
Ouais,
maximum.
C'est une chance?
Moi, je vois vraiment comme une chance. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir une compagne qui s'adapte à ce rythme, enfin, qui s'adapte, qui ne souffre pas de ce rythme de vie. Elle a une très belle vie, elle aussi. Mais en tout cas, ça ne lui pose pas de problème. Mon fils, il dort. Donc, ça pose de problème à personne. Et non, mais surtout, c'est marrant parce que quand tu as dit on dit tu.
Alors, en fait, depuis tout à l'heure, on oscille. Et c'est toujours comme ça avec les musiciens. On ne les connaît pas au début. Donc, on les
voit. On va dire tu, non.
Quand tu joues du sax,
en fait, on se dit tu après.
Quand c'est de la flûte, on dit vous.
Ah oui, pourquoi?
Je sais pas.
C'est la nouvelle règle de Fred.
D'accord, ok. Alors j'ai qu'un morceau.
On va se tutoyer.
D'autant plus j'ai qu'un morceau à la flûte sur l'album. Donc,
on va beaucoup se tutoyer.
Et donc, quand tu as dit le mot entreprise, forcément. Moi, je me définis d'abord comme un musicien, donc ça peut résonner comme
entreprise, comme démarche, hein, plus que entreprise.
Oui, mais alors justement, donc c'est là où par contre, je raccroche les wagons. Moi, je me suis toujours vu, dès que j'ai commencé à faire de la musique, je me suis toujours perçu comme un artisan. C'est-à-dire, je suis jamais parti du principe que quelqu'un allait m'attendre ou allait m'aider. C'était vraiment, non pas que j'ai une vision égoïste de la vie, bien au contraire, mais je pense que voilà, on est quelqu'un qui va faire un bon vin, et ben il va pas juste faire le vin, il va faire la bouteille, il va penser à l'étiquette, il va essayer de trouver la bonne cave qui est sympa dans le bon village pour bien présenter sa bouteille. Être artiste, c'est ni plus ni moins qu'être un artisan. Enfin, c'est Nietzsche qui disait le génie n'existe pas, il y a que du travail et du travail. Et moi, je pense vraiment ce truc-là parce que déjà, ça nous remet un petit peu de... Enfin, ça nous fait descendre un petit peu quand on passe une journée à écrire notre musique, à jouer notre musique. Il y a un moment où on peut perdre un peu pied et se dire qu'au bout d'un moment, bah, cette musique, c'est pas la nôtre, c'est déjà plein d'influences qu'on a et que cette musique, elle n'est rien sans les gens pour qui on l'a fait. Et donc, pour que des gens la découvrent, bah, faut se lever un petit peu plus tôt. Ça m'a jamais choqué ni dérangé, bien au contraire. Mais...
Alors, le cru 2018, on va dire même le cru bourgeois 2018, Samy Thibault, c'est quoi? C'est une maison de production? C'est un chanteur, un musicien? C'est une équipe derrière?
C'est, ça se passe comment? C'est un musicien et une équipe, déjà, parce que cet album ne se fait pas sans les merveilleux musiciens qui m'ont accompagné. Effectivement, c'est des musiciens avec qui je n'ai jamais joué pour la plupart. Et c'est ils ont tous accepté de s'engager à 200% dans cette aventure. Il y a Felipe Cabrera, il y a Inor Sotolongo, Arnaud Dolmen, Rafla Vital, Hugo Lippi, Fidel Fourneron. Donc c'est vraiment des gens qui viennent d'horizons très divers et très variés. Donc sans eux, déjà, cette musique n'existe pas. Et puis autour de ça, c'est vrai qu'il y a toute l'équipe du label Gaïa Music Production que j'ai monté, qui s'occupe de chercher tous les financements, de faire toutes les feuilles de paye. Il y a mes managers qui s'occupent de penser quand est-ce qu'on va sortir l'album, comment on va le sortir. Il y a le graphiste avec qui j'ai bossé énormément.
Alors justement, ouais, c'est la question que je voulais poser. C'est une très belle couve.
Ah ben je suis content.
Un petit mot peut-être justement sur l'artiste.
Cette couverture, elle a une histoire. Le graphiste s'appelle Guillaume Sex. C'est quelqu'un de très inventif et que j'ai rencontré par mes managers. Il travaille notamment avec Ibrahim Malouf, avec toute l'association Paris Jazz Club, et j'en oublie beaucoup, vidéaste aussi. Et en fait, on a voulu travailler avec le photographe Yuri Lenquette, qui est quelqu'un qui a fait énormément de photos sur Cuba, sur les Caraïbes, et qui a vraiment il connaît très bien cette région du monde. Et j'avais une première idée, qui était de faire une photo dans un bar avec une ambiance de fête, mais avec un flou artistique, une espèce de tourbillon. Et en réalité, la séance s'est très bien passée, mais on l'a faite à 13h30 dans un bar en commençant au Mojito. Donc, autant dire qu'au
c'était
bout d'une heure...
C'était dans l'ambiance déjà.
Oui, les yeux de tout le monde étaient rouges, alors même avec du flou artistique, ça n'a pas trop marché. Et donc, on a fait une séance de portrait simple le lendemain, mais il n'y avait pas... Un portrait, ça ne raconte pas d'histoire. Et effectivement, pour rebondir encore sur ce que tu disais, la réflexion, moi je pense que tout est histoire. L'art, c'est une histoire.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est un début, un milieu, une fin. On ne pourra jamais sortir de ça. Surtout la musique, qui est un art du temps. Donc, tout doit se refléter partout. Donc moi, je voulais que la pochette raconte une histoire. Et un portrait en studio, c'est pas une histoire. Et donc, on a réfléchi. Donc moi, je suis un fan de science-fiction et notamment de comics et notamment du personnage de Batman. Et je suis un fan de ce film injustement critiqué et injustement pas suivi par le public, qui est Batman vs Superman. Je suis un énorme fan de Zack Snyder. Et la campagne d'affichage de Batman vs Superman, c'était une campagne d'affiches déchirée avec Batman, et on déchirait et il y avait Superman. Et je me suis dit, mais on va faire pareil avec une photo que j'ai prise sur un mur dans les Caraïbes. Et mon graphiste a développé l'idée en prenant une partie de cette photo et en la développant jusqu'au bout, en rajoutant des trucs.
À côté de ça, tu as mis toute une série de petits films sur le web.
Oui.
Donc une genre d'épisodes, dans ces épisodes, on se dit tiens, on va en avoir un nouveau. Et là, on ne retrouve pas cette écriture très léchée, très élégante, mais plutôt filmée à l'iPhone tout pourri.
Oui, exactement.
Ouais. Alors pourquoi?
Alors pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est que je ne voulais pas. Moi, je suis alors, j'ai du mal à. Enfin, si, je vais le dire quand même. Je suis un jazzman dans mon histoire à 350%. C'est-à-dire que j'ai écouté Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Charlie Parker. Je suis vraiment un enfant des années 50, des années 40, des années 60. Et j'ai un vrai amour pour la musique des Caraïbes. Donc, je pouvais pas ne présenter ce disque sans dire d'où ça vient, sans présenter les musiciens qui m'ont influencé, sans présenter ces génies, quoi, vraiment. Donc je tenais à ce que, avant que le disque sorte, il y ait des petites vignettes qui présentent ces êtres humains qui m'ont introduit à cette musique et qui la maîtrisent si superbement et qui la défendent avec autant de passion. Donc je voulais raconter l'histoire de ces musiciens-là. Et donc j'ai voulu repartir là-bas et les filmer, les interviewer, les rencontrer. Et puis bon, il y a une contrainte budgétaire, je pouvais pas partir avec une équipe vidéo complète. Et j'ai rencontré un jeune réalisateur qui s'appelle Pierre Audouin, extrêmement talentueux, qui m'a dit « mais moi j'ai bien envie de faire des montages assez rapides avec juste des images d'iPhone ». Alors comme je suis quand même pas du tout, il m'a beaucoup engueulé parce que les images n'étaient pas de bonne qualité. Il a fait ce qu'il a pu avec ce que je l'ai ramené, parce que moi au bout d'un moment, je parlais avec les musiciens, puis l'iPhone il commençait à tomber, à remonter. Enfin bon, il a fait ce qu'il a pu avec tout
enfin,
ça.
Le résultat, du coup.
Voilà, et donc, oui, parce que c'était 21 petites stories, petites histoires.
21 secondes, même pas.
21 secondes.
Où est-ce qu'on peut les regarder, du coup.
Elles sont sur ma page Facebook, elles sont toutes, toutes sur ma page.
Les 21. Ouais,
c'est sur YouTube aussi.
Et YouTube
aussi.
Il y a
même des gens qui les ont classées.
Ah bon?
Ah oui.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai retrouvé ça.
C'est vrai,
classé,
t'as raison.
Comment, par ordre?
Si vous voulez voir tout Samy Thibault sur son dernier album, on peut le retrouver sur Facebook.
Donc l'album vit de lui-même maintenant.
C'est un enfant.
Non, mais c'est chouette parce qu'on voit tous ces musiciens qui viennent raconter comme ça. C'est une virgule.
Donc il faut vraiment aller voir ça. C'est vrai que ça apporte. En plus, enrichit
Et puis
énormément
on voit vraiment
l'histoire aussi.
Exactement.
Album,
et on voit vraiment les musiciens qui m'ont influencé et qui m'ont appris ce que j'ai utilisé pour cet album. Ouais.
Alors, on va du coup peut-être écouter un premier morceau de cet album. On va écouter
le premier titre. C'est Santeria. Moi, j'avais juste une question à te poser parce qu'en 2000, je suis parti faire un reportage photo à Cuba, et comme Santeria, c'est quand même un mot comme ça qu'on entend sans entendre, qui est derrière.
Bien sûr.
C'est quoi exactement?
Alors la Santeria, c'est une forme de religion, on va dire apparentée au catholicisme, mais c'est un mélange de la religion des Yoruba, qui est une tribu de l'Ouest africain, qui avait des divinités qui étaient en rapport avec les ancêtres, avec, ils ont une vingtaine, même voire plus de divinités. Et dans les premiers temps de l'esclavage à Cuba, ces religions se sont mélangées avec le catholicisme. Ils ont eu des cérémonies bien particulières. Et là, il y a vraiment des cérémonies religieuses qui sont tout le temps accompagnées de musique, qui sont tout le temps accompagnées de danse. Et pour moi, qui suis très attaché à la notion de transe et de cérémonie. Je trouve, pour moi, un concert, c'est une cérémonie. C'est un moment où on est tous ensemble et la musique est une espèce de vecteur, j'espère, vers le haut et vers l'intérieur. Déjà, ça m'a plu. Et en plus, l'introduction de Santeria, c'est un morceau qui s'appelle El Tono de la Virgen, qui, à mon avis, c'était une mélodie religieuse qui était chantée dans les églises au Venezuela au XVIIIe siècle. Et c'est très rigolo, c'est vraiment l'influence du baroque hollandais, quoi. La mélodie est très influencée par ce style-là. Et j'ai relevé, les paroles sont à tomber par terre, elles sont super belles. Et c'est chanté par un chœur de femmes. Et moi, j'ai entendu ça, ça m'a fait pleurer. Donc j'ai relevé simplement sur le piano. Et à partir de là, j'ai développé, avec les accords que ça me suggérait, avec le rythme que ça me suggérait. Donc c'était une espèce de mélange là aussi. Donc je me suis dit, je vais appeler ça Santeria.
Et justement, ce mélange, si je me souviens bien, à Cuba, quand il y a eu l'interdiction des religions, la Santeria, c'était caché. On ne savait pas qu'il y avait le catholicisme. Il était derrière. On avait l'impression que c'était juste...
Tout à fait. Toi, tu y étais pendant cette période-là?
Moi, j'étais en 2000.
D'accord.
Donc j'ai fait le tour de l'île et les gens me disaient « Non, vous ne pouvez pas passer par là parce que les voitures ne passent pas. » Il y avait 5% de voitures.
Ah oui.
Et nous, on a fait réellement le tour de l'île en voiture.
Ah ouais, super.
C'était assez délirant. Mais bon, revenons à Santeria.
Revenons à l'album. Voilà, on écoute du coup Santeria et on se retrouve juste après.
Thank you.
retour dans l'émission Jazz Interview sur Art District. On est avec Samy Thiébaud et on parle de son nouvel album Caribbean Stories. Alors Samy Thiébaud, on a déjà beaucoup évoqué l'album, ce qui te nourrit, ce qui t'influence. Justement, est-ce que tu es allé quand même passer des longs séjours dans tous ces pays dont les musiques t'influencent ?
Oui, alors le premier long séjour que j'ai passé, c'était au Venezuela. Moi, j'y suis allé pour... l'histoire de cet album commence avec ça. J'y suis allé pour une tournée que je faisais avec mon quartet de l'époque et mon projet qui était sur les Doors. Et on était, je me souviens, on était comme des fous dans l'avion parce que c'était peut-être 8 mois après la mort de Chavez. Donc avec mon ami SR, contrebassiste.
Bon, le fameux.
Le
on
R,
dira pas le nom.
Le R se finit par un no. Donc vous avez S. Romano.
C'est ça. Donc déjà,
il y a un M au milieu, c'est ça.
Il y a un M, c'est ça.
La silhouette de ce musicien commence à émerger.
Très belle silhouette, très belle silhouette.
Et une interrogation au début, il y a un si.
Il y a un si, exactement, c'est vrai. Oh, ça reste,
il pourra peut-être venir nous voir. Ce
musicien. Oui, il faudrait l'inviter, c'est quelqu'un de passionnant, qui adore parler en plus, vous allez mettre totalement à l'aise.
Très bien. Qui a une douceur d'ailleurs exceptionnelle. Et qui, moi je trouve qu'elle se rapproche vraiment de... Ben là, ce qu'on vient d'entendre, c'est tout doux, tout calme, et puis après ça monte, ça c'est emprunt, ça nous...
Ouais,
ça entre en nous.
C'est ce que je voulais faire aussi, une espèce de construction de l'intérieur vers l'extérieur.
T'as dû réussir alors.
Ouais, merci.
Je crois d'ailleurs que c'est ce que dit, alors parce que quand même, il faut noter qu'il y a un petit mot de Christiane Taubira.
Oui, ça a été la grande surprise.
Voilà, et elle dit exactement ça, que la chaleur monte et qu'elle a ressenti, elle a reconnu aussi tout l'intérêt de ces musiques qu'elle connaît bien.
Ouais, donc, oui. Et puis c'est une fan de jazz en plus.
C'est
donc,
ça. Et alors. C'était une surprise d'avoir...
Oui, totalement. En fait, c'est une fan de jazz et elle est... je ne sais pas pour quelle raison, elle a fait une émission à TSF Jazz. Elle était là le même jour où mon manager était là. Et pour mon anniversaire, il y a quelques mois, mon manager, il était là, on fêtait mon anniversaire ensemble. Il me dit, je crois que j'ai un beau cadeau d'anniversaire. Je fais, ah bon ? Et il me montre un texto de Christiane Taubira qui dit, oui, je serais ravi d'écrire un texte pour l'album de Samy. Parce qu'elle entendu la musique, mon manager lui a parlé du projet, ça l'a touché. Et donc pour revenir à votre question, de mes séjours dans la Caraïbe, ça a commencé par le Venezuela, et donc on était complètement fascinés par ce pays en y allant. Et on arrive à l'hôtel, un peu dans le décalage horaire, et j'entends des musiciens au bar de l'hôtel jouer la chose la plus incroyable que j'avais jamais entendue, c'est-à-dire que c'était... une création rythmique d'une complexité, d'une richesse folle, et les gens chantaient et dansaient dessus. Et c'était, je n'avais jamais vu ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour ceux qui nous écoutent, qui sont les plus affûtés dans le jazz, c'est comme si Steve Coleman ou Avishai Cohen, le trompettiste, ou Mark Turner jouaient dans un bar d'hôtel. Donc avec les expériences rythmiques qu'ils font actuellement, qui sont quand même très, très denses, et que tout le monde, que c'était la fête autour, quoi. C'est quand même... Et pour moi, ça résume... tout ce pourquoi j'aime la musique et tout ce pourquoi j'aime le jazz, c'est-à-dire une musique riche, enrichissante, profonde, mais populaire avant tout.
C'est ça, c'est ce côté festif aussi et de rassemblement finalement autour...
Mais on fait de la musique pour... Enfin, moi, je fais de la musique pour ça. Je veux dire, quand j'écoute Coltrane, il n'y a rien de plus populaire et généreux que Coltrane. Et vous faites écouter Coltrane à n'importe qui dans la rue, il va dire « Waouh, c'est sympa ce truc-là. Ça va danser à l'intérieur, il y a un truc... » On ne peut pas se passer ça. Vous pouvez aller voir un film de Martin Scorsese, on peut passer un super moment en achetant 20€ de pop-corn et se dire « Ah, ouais, franchement, c'était super ce film. » Et puis l'analyser pendant 40 ans après. C'est, pour moi, l'art, c'est... Enfin, voilà. Et donc, j'ai vraiment eu un choc. Et à partir de là, donc, on a fait une tournée pendant 15 jours au Venezuela, qui était magnifique, on est rentré vraiment au fond de cette culture-là. On a eu la chance de collaborer avec les musiciens du Sistema. Pour ceux qui ne connaissent pas, El Sistema, c'est une invention qui a été faite dans les années 70 par El Maestro Abreu. Et c'est à partir de l'idée de dire que la musique était plus qu'un art, que c'était aussi un lien social. Jouer avec quelqu'un, c'est un lien social, avant tout. Et donc, du coup, El Maestro Abreu, qui était un grand chef d'orchestre classique, s'est dit, on va prendre tous les enfants des barrios, qui sont l'équivalent des favelas à Caracas, et on va les mettre au cœur de l'orchestre symphonique avec des petits violons en carton, qui n'émettent pas de son. Et ils passent la matinée à se marrer, à faire ils jouent la cinquième de Mahler, mais ils ne font pas de son. Et l'après-midi, ils ont un référent, qui est peut-être le premier violon, ou le premier violoncelle, ou le trombone, et qui leur dit, bon, qu'est-ce que t'as aimé aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui, j'ai aimé quand ça faisait ta-ta-da-da-da-da-da. Alors, tu vois, le da, c'est un sol. Et donc, ils lui montrent, avec le vrai violon, comment on fait un sol. Et ça, tous les jours. Ils arrivent à l'âge de 8-10 ans, ils jouent tout le répertoire classique, par cœur, d'oreille, avec un son énorme. À partir de 11 ans, on leur dit, bon ben, ta da 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 di da da, c'est noir de croche noire de croche noire, voilà. Ah oui, alors ça, sol, acido. Donc à 12 ans, ils disent hyper bien, et à 15 ans, ils doivent s'occuper d'un petit qui rentre. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle le système A. Et je suis un peu long, mais parce que c'est incroyable ce truc. Et donc quand Chavez est arrivé au pouvoir, il s'est dit, mais... Il a mis des milliards dans ce truc-là. Et donc, du coup, ça s'est développé dans tout le Venezuela. Et donc, il y a une culture musicale incroyable. Et tous les concerts sont gratuits. Donc, ce qui veut dire que n'importe qui au Venezuela dans la rue a une connaissance profonde des musiques traditionnelles, du répertoire classique, du jazz. Et tous les musiciens qui sont dans les Sistema, sont des musiciens vraiment exceptionnels. Je mâche pas mes mots.
Hein. Alors, quand toi, t'arrives là-bas, tu te positionnes comment?
Moi, je prends une énorme claque parce que je ne crois pas être de toute façon. Moi, je m'estime en perpétuel apprentissage, donc j'ai pas de. Je me suis jamais positionné. J'ai des choses à transmettre, mais j'ai beaucoup à apprendre. Donc j'avais pas déjà une attitude, on va dire, conquérante là-bas. Donc déjà, c'est un bon premier point.
C'est mieux.
Oui, de toute façon, c'est un bon premier point. Oui. Mais je dis ça parce que j'ai souvent été le témoin de musiciens, notamment de jazz, qui arrivent et qui, parce qu'ils connaissent 4 accords et demi et 2 rythmes 30, et qui disent non, mais bon, c'est pas comme ça que ça se joue le jazz. J'ai tellement vu ça. Et donc, quand on arrive juste en faisant pas ça, eh ben, eux nous fournissent 40 000 fois plus d'informations qu'on en a demandé. Et nous, les 4 informations qu'on leur fournit, qu'ils n'avaient pas, elles sont. Enfin, c'était un vrai échange, c'était hyper émouvant.
Et comment tu l'as construit alors, cet album ?
Et donc du coup, en revenant de cette tournée, moi j'étais marqué au fer rouge parce que j'ai vu, et j'ai commencé à écouter beaucoup de musique vénézuélienne et de musique de la Caraïbe. J'ai voulu les faire venir en France, on a organisé une tournée avec le Big Band Simon Bolivar. Et là je me souviens d'un moment dans la chambre d'hôtel où le chef d'orchestre Andrés Plesenio, qui est un magnifique batteur, me fait écouter des llaneras. C'est des musiques des plaines, des musiques des paysans, et moi je me suis mis à pleurer tellement c'était beau. Il est parti. Et j'ai continué à écouter plus, j'ai écouté de la musique portoricaine, j'ai rencontré entre temps Felipe Cabrera, qui est le contrebassiste de cet album, qui est cubain, qui m'a fait découvrir les boléros, qui m'a fait découvrir les sones. À cette époque-là, en plus, le hasard voulait que j'étais complètement addict à la salsa, qui n'est pas une musique cubaine, caribéenne, c'est plus une musique de New York, vraiment. Surtout de la manière dont nous, on la danse ici en France, elle est très démonstrative, c'est pas vraiment comme ça que ça se danse là-bas. Mais en tout cas, je baignais dans ces éléments-là. Mais jamais j'aurais eu l'idée de faire un album là-dessus. Et quand on a fini la tournée de Rebirth l'année dernière, j'avais déjà en tête de faire ce projet symphonique, mais j'avais l'impression qu'il y avait un verrou, que je devais faire quelque chose avant, je ne savais pas quoi. Et je me suis dit, mais j'aimerais tellement faire un projet sur la musique de la Caraïbe. Mais je me disais, mais bon, des gens qui jouent du boléro, du merengue, du calypso, ils le font de manière bien plus excellente que moi.
Il y en a beaucoup en plus.
Voilà. Oui. Et du coup, j'ai trouvé la porte d'entrée en me disant, mais en fait, il ne s'agit pas de refaire du merengue. Il s'agit de moi aller me perdre dans cette musique et de trouver un autre langage là-dedans.
Revisiter en fait.
Et j'ai commencé à développer un peu cet aspect-là, et du coup j'ai commencé à trouver des nouvelles voies, et je me suis aperçu en trouvant ces nouvelles voies que le jazz tel qu'on le conçoit, il est moins originaire de la Nouvelle-Orléans que des Caraïbes, et parce qu'il y a tellement d'éléments que j'ai retrouvé en défrichant de ce que j'aime dans le jazz, que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été une cure de jouvence. J'ai réorganisé les arrangements, j'ai réorganisé mon propre jeu de ténor, et là j'ai des idées plein la tête pour la suite, et du coup ça m'a enlevé tous mes verrous pour écrire mon autre projet aussi. Enfin voilà.
D'un côté tu écris, et de l'autre côté tu as fait 4 reprises, je crois.
Oui, tout à fait. Oui,
ce mélange, pourquoi ?
Parce que pour tous mes albums, je fais ça, je passe beaucoup de temps à relever les musiques de qui m'influencent. Donc, je sais pas, j'ai une phase de 3-4 mois où je relève tout, où j'écoute tout et je relève tout. Mais quand je parle de relever, je relève les solos, je relève les accords précis, je relève. Et forcément, d'un travail, de ça naissent des compositions, mais aussi de ça naissent aussi des idées d'arrangement. C'est-à-dire que. Voilà, on est dans une histoire, donc le passé est présent, donc il faut se nourrir du passé. Donc j'aime bien aussi l'idée de garder des arrangements et de garder un pied dans ce qui s'est passé avant, pour avancer un petit peu plus devant.
Et les reprises, c'est de qui ?
Alors, on a une reprise de Sindo Garay, qui est un grand chanteur de cubain. J'ai fait un arrangement de Perla Marina, qui est l'un des premiers boléros cubains, qui a été créé il y a 200 ans maintenant, peut-être. Et il y a une reprise à laquelle je tiens beaucoup, qui est un traditionnel vénézuélien, qui s'appelle Paralio Balde, qui est magnifié par Cecilia Todd, une grande chanteuse vénézuélienne. Et j'ai longtemps rien compris à cette chanson, parce que Paralio Balde, ça veut dire petit oiseau vert, et les paroles disent petit oiseau vert, tu ne veux pas que je pleure, mais petit oiseau vert, je vais pleurer quand même, ils vont m'enlever mes grillons, mais peut-être qu'ils vont me les remettre. Enfin, c'est quelque chose de très mystérieux et j'ai vraiment rien compris. Et quand je suis retourné dans les Caraïbes il y a 6 mois, j'ai rencontré des joueurs de cuatro, qui est une petite guitare vénézuélienne, et je leur ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette chanson, parce que je comprends pas les paroles. Et les mecs se sont marrés et ils m'ont dit, en fait, le Paralio Balde, c'était les menottes que les esclaves avaient aux pieds. D'accord. Du temps de la colonisation. Et donc c'est une chanson révolutionnaire, mais dont le sens des paroles est volontairement caché pour qu'on puisse la chanter dans les bars, dans les dictatures d'Amérique du Sud, et qu'on ne soit pas menacé.
C'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, on écoute ces musiques chaleureuses, très festives. Il faut s'imaginer quand même que ça vient aussi d'une histoire où il y a beaucoup de souffrance, mais qui est l'esclavage.
Qui est l'esclavage et qui est aussi le dépassement de cet esclavage.
Comment sortir, arriver à trouver un espoir à travers la musique.
Et puis
c'est les tripes. Et puis
ces terres, ce sont des terres d'invention incroyable, de politique. Politiquement, je veux dire, tous les calypsos, c'est pour ça que j'ai appelé ce morceau Calypsotopia, le prochain que je suppose.
On va écouter en fin d'émission, on va se quitter en l'écoutant, donc dans quelques minutes. Mais tu peux effectivement en parler.
Calypsotopia, en fait, tous les calypsos sont des paroles politiques. J'ai assisté au concours de calypso à Trinidad et j'ai halluciné. Toutes les paroles sont politiques. C'est que des remises en cause du système. C'est de la chanson à texte, quoi.
Donc c'est vraiment de la révolte et une chanson assez militante, en fait.
Tout le temps. Et c'est ça que j'ai découvert, pour le coup, aussi. Donc, et pareil, pour la Big In, c'est très revendicatif aussi.
Bien sûr.
Enfin...
Oui, il y a tout un message, effectivement, sous-jacent dans ces paroles, justement. Alors, il y a des voix sur ton album.
Oui, c'est nous qui essayons de chanter. Mais heureusement que Felipe
Cabrera... Qui essayons de chanter.
Moi, je ne suis pas chanteur du tout, mais j'ai la chance d'avoir Felipe Cabrera qui chante très très bien, Ralph Vital qui chante très très bien, et puis nous qui nous mettons au niveau.
Alors, on a fait un peu le tour, je pense, là, de tout ce qui te nourrit de cet album qui, j'ai l'impression en tout cas, est un album important dans ta vie d'artiste.
Peut-être très important.
Je ne sais pas si on peut dire un tournant, mais en tout cas, quelque chose qui t'a fait découvrir.
Oui.
Un tremplin, peut-être.
Un tremplin, ou en tout cas, voilà, tu as découvert des choses que tu ne connaissais pas.
Oui, vraiment, pour le coup.
En tant que musicien. Des souvenirs aussi, effectivement, j'imagine, de tous ces voyages.
Il y a beaucoup
d'images liées, j'imagine. Oui. J'imagine musique et...
Les amis que j'ai rencontrés là-bas, les musiciens qui sont sur place, bien sûr. Bon, oui, ça me... Quand j'en parle, quand je raconte ces histoires, je suis très enthousiaste parce que c'est des liens très forts qui se sont passés avec ces musiciens.
Alors, on a traditionnellement une petite question dans cette émission. Tu nous as raconté beaucoup de souvenirs qui t'ont marqué, mais est-ce que, au-delà de peut-être cet album, tu as un souvenir marquant en tant que musicien, qui a fait... qui a produit une émotion en toi, que ce soit la rencontre avec un autre artiste, l'écoute d'un morceau...
Lié à cet album ou
d'une
manière générale ?
Pas forcément, de manière assez générale. Dans...
Alors, je dirais... Bah, j'ai de la chance, j'ai la chance de beaucoup tourner, d'avoir beaucoup voyagé à l'étranger. Donc, c'est pas pour faire le malin, mais la liste se bouscule un petit peu. Mais je dirais que, puisqu'on est là-dedans, le souvenir le plus marquant que j'aurais, c'est justement je crois que c'était notre tout premier concert au Venezuela quand on est arrivé. On monte sur scène et c'était un concert public et gratuit. Et ce qui était dingue, donc on jouait à l'époque un répertoire qui était un hommage aux Doors, mais que j'avais volontairement croisé avec Coltrane, parce que les Doors étaient fans de Coltrane et je trouvais qu'il y avait une parenté évidente, et puis c'était mes premiers amours musicaux, les Doors. Donc c'était un répertoire qui était très bien, mais qui pouvait prendre vraiment beaucoup de risques musicalement. Enfin, je dis pas que celui-là n'en prend pas, bien au contraire, mais puis le groupe était très soudé, donc on pouvait aller assez loin. Et ce qui m'a marqué, c'est que le public, qui étaient des gens qui se baladaient en poussette, quoi. Enfin, non, il n'y avait pas que des gens qui se baladaient en poussette, mais c'est pour vous donner une image. C'est des gens qui se baladaient le soir, à
9h.
Des familles, des gens pas en famille, des enfants, des vieilles personnes. Des gens qui ne savaient pas qui j'étais, qui ne savaient pas quelle musique je faisais. Et ce qui était dingue, c'est que plus on allait loin, plus on tentait des risques, plus on était aventureux, plus les gens étaient comme des fous. Ils disaient « Ouais, on y va !»« Vamos !» Ils étaient comme ça, Et en fait, c'est ça qui m'a fasciné dans ces cultures. C'est-à-dire que, loin de renier ce qui se passe en France, il n'y a aucun problème. Mais c'est rare de trouver des publics à qui on propose une musique aventureuse et qui ne soient pas désarçonnés ou qui plus disent « on veut être encore plus perdu, on y va ». Enfin, perdu. À partir du moment où on garde le lien et la connexion rythmique, tout va bien. Enfin, c'est ça qui était dingue, quoi.
Alors, quelque part, quand tu dis ça, ce serait plus une rencontre avec le public qu'une rencontre avec un homme.
Oui, alors avec un homme, je pourrais en citer plein de cette tournée. Je pourrais,
une femme.
J'ai la chance qu'elle soit dans mon appartement, pas en ce moment, mais à peu près un quart de la journée. ça c'est déjà fait. Mais
je parlais artistiquement parlant.
Ah, artistiquement, ah oui.
Non, parce que je sais une émission bien d'art. Que tu as une femme.
Ah non, mais je pourrais ne pas
non,
en avoir.
Non, mais c'était juste.
C'est pas un but dans la vie. Non plus, mais c'est une chance. Et donc, on s'éloigne.
La question de départ, c'est est-ce que tu avais un souvenir
D'une rencontre.
Avec plus parlé d'une rencontre avec un public qu'une rencontre avec un homme.
Je dirais, alors à ce moment-là, c'est une rencontre avec des musiciens, parce que des rencontres avec des musiciens exceptionnels, j'en ai fait beaucoup. Il y a le précédent album, on a eu la chance de jouer avec Avishai Cohen, le trompettiste. C'était une expérience incroyable aussi. J'ai appris énormément. Il était, ça m'a confirmé ce que je pressentais déjà, savoir il est dans un lâcher-prise constant et total. C'est-à-dire que très peu de répétitions, très peu de deuxième prise, et faire confiance à l'instant. C'est-à-dire pas chercher à être perfectible. Et ça, c'est une belle leçon. C'est-à-dire ne pas chercher à mettre sa volonté à la place de l'instant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Il n'est pas comme ça. Mais dans la notion d'improvisation, une improvisation, si le sentiment n'est pas bon, le sentiment n'est pas bon. Mais si le sentiment est bon, il est bien. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur la perfection de l'exécution, il va se focaliser sur
Sentiment.
Voilà, beauté du sentiment. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça veut dire que toi qui réfléchis beaucoup, analyse, puise, retour aux sources, etc., et quand tu es face à quelqu'un comme ça, tu es un peu désarçonné, alors?
Alors, j'avais déjà un peu ce mouvement-là. Mais effectivement, ça m'a enlevé mes dernières réticences. C'est-à-dire que moi, j'étais encore un petit peu... quand je faisais un disque, je me disais, bon, là, j'ai accroché une note ici. Et en fait, il m'a fait prendre conscience qu'on s'en foutait complètement et que personne n'entendait ça. Et c'est vraiment plus ça intéresse dire, il est un peu fou sur le fa. Oh là là, vous avez vu, là, il a raté l'entrée, ça intéresse 4 personnes rue des Lombards, en réalité. Rue des Lombards, pour ce qui nous écoute, c'est...
Pour le petit monde du jazz.
C'est les 3 clubs principaux qu'il y a dans Paris, dans lesquels tous les musiciens et le public vont, mais en général, ces discussions, on ne les a pas avec le public, on les a avec le saxophoniste et le pianiste qui sont au bar.
Et comme le saxophoniste, c'est toi,
oui, voilà,
plus qu'un pianiste.
En plus. Donc voilà. Et oui, donc j'ai appris ça. Enfin, ça a été une vraie leçon de se dire l'exécution est secondaire, le sentiment est primordial. Et ça, c'était fou. Et mais sinon, pour parler de mes rencontres avec mes musiciens, enfin avec les musiciens, c'est, je pense à Andrés Briceño, je pense à Nicolas Gaudencio, à Esperanza Gales, à Josué Ravial Pinto. C'est tous les amis que j'ai rencontrés au Venezuela qui sont des musiciens, mais vraiment, quand je dis exceptionnel, c'est le mot est avec un grand E, quoi. Et oui, c'est peut-être une des rencontres les plus marquantes de ces dernières années, oui.
Et le prochain voyage, excuse-moi Fred, au Venezuela alors ?
Alors, si tout se confirme, c'est pour un autre projet, celui qui sortira en septembre prochain. J'y vais logiquement en mars prochain pour faire une création justement avec El Sistema, ce dont je parlais la dernière fois, et donc un orchestre symphonique. Et donc là, on sera plus sur mon projet qui sortira en septembre prochain, qui n'est pas vraiment un projet autour de la Caraïbe, mais un mélange de répertoire classique, de jazz contemporain et de musique indienne, donc rien à voir.
Ça peut être assez fou.
Oui, je suis assez content.
Moi, j'avais encore une petite interrogation, peut-être avant qu'on écoute le deuxième morceau.
Oui, c'est bientôt la fin de l'émission, mais on a le temps pour une dernière question.
Comme à chaque fois, parce que je suis peut-être un peu comme toi, je vais chercher, je regarde, j'essaie de comprendre qui va arriver dans cette émission, même si je te connais. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas trouvé beaucoup d'interviews de ta part. C'est-à-dire que tu parles beaucoup avec ton instrument, tu es beaucoup filmé lors de concerts, alors je sais que c'est peut-être un peu toi aussi qui filme, mais je n'ai pas trouvé toute une discussion de fond où j'avais envie que tu... un peu là, tu nous parles de tellement de choses, on ne le trouve pas tellement sur le web. Et après, un seul point que j'ai retrouvé, c'est qu'à un moment, tu as dit « ma voix et mon saxophone ».
Oui.
Donc je me suis dit, peut-être en fait, il a beaucoup parlé.
Mais le je pense que tu as résumé un petit peu le... que dire après.
Pourtant, tu parles beaucoup depuis tout à l'heure.
Oui, mais je suis un parleur, moi. Mais alors, deux raisons à ça. Premièrement, tu as raison. C'est-à-dire que je pense que la musique se suffit à elle-même, quoi. Après, c'est toujours... elle suscite des discussions, donc c'est génial. Mais en réalité... on est toujours en deçà de ce qu'est l'art. Après, c'est super d'en parler avec vous, autour d'un verre, ou après un concert, ou avant. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que... Non, mais en fait, je vais la garder pour moi. La deuxième raison.
En fait, tu veux revenir ?
Oui, c'est ça.
Caribbean Stories, merci beaucoup Samy
Thiebaud
d'être passé dans notre studio.
C'est un plaisir.
Faut dire que cet album a beaucoup de très bonne presse. En tout cas, il y a vraiment, je pense que tu es content des retours, énormément de bonnes critiques. On pourra te voir prochainement au Café de la Danse, ce sera le 15 novembre à Paris. Sûrement d'autres dates, il faut aller un petit peu chiner sur Internet.
C'est sur le site.
Juste pour finir, rappeler aussi que tu fais partie du Thierry Maillard Big Band.
C'est vrai.
Et que tu... te produit du coup assez souvent sur scène dans ce cadre-là, donc qui est autre chose, mais voilà.
Est-ce que vous connaissez Thierry Maillard aussi ?
Eh bien oui, bien sûr, magnifique. On connaît tout le monde ici. Et voilà, donc Caribbean Stories, un très bel album, plein de chaleur, plein de couleurs, et on va se quitter écoutant...
Est-ce qu'il y aura des invités surprises que
tu sais
faire ?
Il y aura.
Ah bah oui, toujours, mais c'est l'art de Samy, il aime bien garder quelques mystères. Merci Fred d'avoir été avec moi encore.
Merci pour votre invitation.
Cette émission. Merci beaucoup.
Faut se croiser dans la rue.
Voilà,
c'est ça.
Merci beaucoup Samy Thiebaud. On ira te voir en concert, évidemment. Et c'est la fin de cette émission Jazz Interview et on se quitte en écoutant donc un deuxième titre de ton album qui s'appelle Calypsotopia.
Merci.
À très bientôt. Mm-hmm.
Mamá, güey.